Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
À l'occasion d'une formation à l'écoute proposée par Mère de Miséricorde les 16 et 17 novembre, nous découvrons quelle est la juste posture de l'écoutant chrétien. Comment écouter avec empathie, comment accompagner par une juste attitude d'écoute celui qui se confie, comment se protéger de tout ce que l'on entend, et enfin, qui le chrétien doit-il écouter et comment doit-il écouter? Nous en parlons aujourd'hui avec Claude Colomès, psychothérapeute, formatrice à l'écoute et à l'accompagnement. Bonjour madame.
Bonjour.
Je précise que vous êtes aussi formatrice pour les écoutants de l'association Mère de Miséricorde.
Tout à fait.
Et l'accueil et Louis et Zélie Martin.
Et également, voilà, tout à fait.
Voilà. Claude Colomès, dans nos engagements associatifs ou ecclésiaux, dans notre travail en famille ou même entre amis, nous sommes souvent sollicités pour écouter. Est-ce que c'est une simple attitude passive?
Alors, ça peut l'être. Si la demande de la personne qu'on écoute, c'est juste « écoute-moi, je ne te demande pas de conseils, j'ai juste besoin, là j'ai passé une mauvaise journée, j'ai juste besoin de déverser tout ça, alors si ton oreille attentive pouvait être là, ça me ferait du bien », ça peut s'arrêter là.
Juste pour vider son sac.
Voilà, mais ce n'est pas forcément le rôle d'un écoutant dans le cadre des associations que vous venez de citer.
D'accord. Donc, quels sont les bénéfices finalement d'une écoute de qualité quand l'interlocuteur demande plus d'attention?
Alors, quand la personne demande plus d'attention, il faut avoir une écoute plus ciblée, une écoute plus intense, plus profonde. Parce que plus l'écoutant est prêt à aller loin, plus l'écouté va pouvoir aller loin aussi à l'intérieur de lui, pour pouvoir parler de son problème.
Est-ce que ça met en œuvre une certaine énergie?
C'est énorme. L'écoute, c'est énorme. Au tout début où je pratiquais, alors l'écoute, moi je suis psychothérapeute, c'est un peu différent quand même, mais j'étais en sueur. Je pouvais écouter une personne et puis après j'étais cassée pour toute la journée. L'écoute, c'est vraiment énormément d'attention. On se décale tellement de soi-même qu'on met toute l'énergie à écouter l'autre. Et c'est vraiment un travail très intense.
Ouais.
Et en même temps, il faut en même temps laisser le Seigneur passer, parce que c'est aussi lui qui travaille, et avant tout.
Et on va effectivement parler de cette place que le Seigneur doit prendre dans cette écoute. Peut-être encore une question sur cette introduction, sur les bases de l'écoute. Est-ce qu'il y a une durée particulière, une durée qui est conseillée pour un temps d'écoute?
Oui, on considère et on a remarqué qu'environ entre 45 minutes et une heure, c'est suffisant. Après, j'ai envie de dire, on va s'enliser, si je peux me permettre cette expression. On va vraiment tourner en rond. La personne ne va plus trop savoir où elle en est, parce que la vigilance, autant de l'écoutant que de l'écouté, au bout de 45 minutes, elle s'émousse un peu.
Ah oui, c'est ça. Donc 45 minutes, maximum une heure.
Maximum une heure.
Quels sont les freins qui nous empêchent de pratiquer en général une bonne écoute?
Alors, le premier frein, c'est quand même pour un écoutant chrétien de vouloir faire tout seul avec ce qu'il est, ce qu'il a, ses connaissances, son savoir, son expérience, et de ne pas laisser le Seigneur agir. C'est le plus gros piège, parce qu'en fait, quand on est rempli de soi-même, on va accompagner l'autre avec tout ça. Et en fait, le Seigneur, c'est peut-être pas là qu'il veut que la personne qu'on accompagne aille. Pas forcément. Et on ne sait pas, et on voudrait bien savoir. C'est très inconfortable de ne pas savoir.
Oui, ça c'est vrai. Et puis peut-être que justement dans ce que vous dites, Claude Colomès, le frein c'est aussi de se dire qu'on est un bon écoutant alors qu'on n'a pas été formé.
Ah oui, ça c'est quand même un gros piège. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent, elles disent avec le cœur. Mais bien sûr, c'est génial d'écouter avec le cœur, c'est l'attitude de base. Mais après, il faut quand même avoir quelques idées, quelques pistes de où en est l'autre, hein, et qu'est-ce qui va vraiment l'aider.
Alors justement, on va voir avec vous toutes ces pistes, Claude Colomès, pour essayer d'être un bon écoutant chrétien. Il y a quand même trois types d'écoute. D'abord l'écoute de soi, l'écoute de Dieu et puis évidemment l'écoute des autres. Comment, quand on s'écoute soi-même, peut-on éviter de tomber dans le nombrilisme?
C'est difficile quand on s'écoute qu'à soi-même, parce que finalement, la référence, c'est moi. Donc, je vais faire fonctionner mon monde autour de moi par rapport à mon cadre de référence. Or, mon cadre de référence n'est pas celui de l'autre. Mes expériences ne sont pas celles de l'autre et mes solutions ne sont pas celles de l'autre. Et je peux être sûre que mes solutions sont bonnes, oui, mais pour moi, pas pour l'autre. Parce que l'autre est différent de moi. Et c'est justement appréhender cette différence qui est difficile. C'est se décaler de soi-même, se désencombrer de ses certitudes pour aller vers l'autre qui n'est pas comme moi et qui n'a pas la même expérience que moi et qui ne va pas comprendre les choses de la même manière que moi. Et mon chemin n'est pas celui des autres. Chacun a un chemin différent. Et ça, c'est très difficile quand on est face à l'autre de faire avec l'autre plus qu'avec soi-même.
Mais s'écouter soi-même, c'est une habitude qu'il faudrait avoir régulièrement ou au contraire, c'est quand il y a un événement particulier ?
Non, en fait, je pense que c'est tout le temps. Quand on est à l'écoute de l'autre, on devrait s'absenter un peu de soi-même. Se désembouteiller de tout ce qu'on est, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on pense, tout ce petit pouvoir qu'on a sur, qu'on croit avoir sur l'autre et cette certitude d'avoir raison. Et ça, c'est tout le temps. Dès qu'on est en communication avec quelqu'un, on devrait faire un pas de côté, vraiment, et laisser l'autre prendre toute la place et le Seigneur. Dans l'ordre, le Seigneur et l'autre, mais pas moi. Moi, je n'ai pas ma place dans ces cas-là. Oui. J'ai juste ma place avec mon cœur, avec l'envie d'écouter, envie d'aider, mais je pense que souvent, dans cette écoute-là, au quotidien, on oublie qu'on prend trop de place.
On prend trop de place. Et pourtant, indépendamment de l'écoute de l'autre, c'est important aussi, si nous, il nous arrive une épreuve, c'est aussi important de l'analyser pour soi-même.
Tout à fait. Alors, c'est à deux niveaux. C'est « j'ai besoin de me comprendre » et j'ai besoin de l'aide du Seigneur. C'est sur ces deux axes. Parce que si je ne me connais pas, je ne peux pas travailler sur moi. Je ne peux pas me changer si je ne pars pas de ce que je suis. C'est tout simple, mais j'ai une amie qui a sur son frigo un grand panneau où il est écrit « N'importe où tu veuilles aller, il faudra bien que tu partes là où tu es ». Ça paraît une lapalissade et pourtant, partons de là où on est, connaissons-nous d'abord pour pouvoir ensuite nous améliorer. Et demander au Seigneur vraiment ce qui est bon pour nous. Et déjà se dire ça c'est pas bon chez moi ou ça c'est il faut que je le change, parce que j'entends des personnes dire moi je donne tout au Seigneur, mais le Seigneur dans les évangiles il dit que me demandes-tu, que veux-tu? Et je pense qu'en écoutant, la première question qu'il devrait poser en écouter, c'est qu'est-ce que vous attendez de moi?
Et oui.
D'abord, comme je disais au commencement, quand on a démarré, il y a peut-être des personnes qui ont juste envie qu'on les écoute sans les conseiller. Et souvent, il y a des couples où la dame me dit, souvent c'est la dame, qui me dit « Oui, mon mari ne m'écoute pas ». Et alors le mari dit « Mais si je t'écoute ?» Elle dit « Non, non, tu ne m'écoutes pas, tu me conseilles. J'ai un problème, tu me donnes une solution. Je ne t'ai pas demandé une solution, j'ai juste besoin que tu m'écoutes.
Oui. »
Alors vous voyez comme quoi on peut se tromper quand on écoute, on croit écouter en conseillant. Des fois, ce n'est pas le cas. La personne ne demande pas à être conseillée, à être guidée, elle a juste besoin de parler.
Oui, juste besoin de parler. Alors, vous disiez, Claude Colomès, qu'effectivement, il fallait écouter Dieu, quand même, voilà, dans la posture de l'écoutant chrétien. Par quoi ça passe, cette écoute de Dieu ?
Ça passe par le désencombrement de soi-même, comme je disais. Ça passe par le fait de savoir que je ne suis rien, que je ne suis rien pour pouvoir conseiller les autres, que je ne suis rien pour dire « moi, je sais mieux que toi ». Et quelque part, c'est une posture un peu orgueilleuse quand quelqu'un vient en demande devant nous de dire « moi, j'ai la solution, toi, tu l'as pas ». Et c'est quand même un peu présomptueux de penser qu'on va aider la personne en lui montrant un chemin qui serait le nôtre. Pour nous, il est très bien, mais pas pour l'autre, comme je disais avant. Le Seigneur a un chemin pour chacun d'entre nous. Moins je serai encombré, moins je vais encombrer le chemin, plus le Seigneur va me guider et guider la personne, parce qu'on est trois dans une relation d'écoute. Je suis là, l'autre est là et le Seigneur est là. Donc si moi je prends toute la place, le Seigneur ne pourra pas passer.
Et donc se mettre en retrait, mais quand on est professionnel, quand on fait déjà beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'écoute, on peut se dire qu'on a la compétence et que on a quelque chose à apporter à l'autre.
Moi, en tant que professionnelle, ce que je peux apporter à l'autre, c'est ma prière, parce que sans prière, il n'y a pas d'accompagnement chrétien. Et ce que je peux apporter à l'autre, c'est de lui poser les bonnes questions pour qu'il arrive à se comprendre.
Mais pas d'apporter les solutions.
C'est la difficulté, c'est de comprendre l'incapacité que j'ai à comprendre l'autre.
Oui, et ça demande une certaine humilité.
Oui. Mais de toute façon, écouter le Seigneur, c'est toujours une posture d'humilité.
Ouais, c'est ça.
Puisqu'on s'éloigne de nous-mêmes. Voilà, il faut que je diminue pour qu'il augmente. Hein.
C'est vrai. Et puis cette posture d'humilité, elle est aussi comme vous disiez, accepter que l'autre, que je ne puisse pas répondre à la place de l'autre. Oui. C'est aussi, reconnaître que l'autre est un mystère.
Absolument.
Ouais.
Absolument. C'est un mystère que je vais... Il est un mystère pour lui-même. Une personne qui vient avec une problématique, il faut savoir qu'elle est dans le flou, elle est dans la confusion. Sinon, elle s'en serait sortie toute seule, elle ne demanderait pas à être écoutée. Donc, cette confusion dans laquelle elle est, je peux l'aider à y voir plus clair en elle. Moi, je ne suis pas censée y voir plus clair, moi, en elle. C'est elle qui va apprendre à y voir plus clair. Donc, moi, ma posture, c'est plus de questionner. Donc, on a tout un cheminement de questionnement que j'enseigne donc, dans les formations à l'écoute. Tout un cheminement de questionnement qui peut me permettre d'être en retrait, moi, et de juste questionner avec une technique de questionnement qu'on appelle les pointeurs de précision pour permettre à la personne de préciser où elle en est à l'intérieur d'elle. Et je l'aide à y voir plus clair, ça. Ça dissout un peu le brouillard dans lequel elle est. Mais moi, l'autre reste un mystère,
ah
bien
oui,
sûr.
C'est ça. Si on reste un peu sur cette écoute de Dieu, très concrètement, est-ce que c'est invoquer l'Esprit Saint avant un entretien? Est-ce que c'est confier la prière, écouter avant, pendant et après l'entretien? Comment vous, très concrètement, Claude Coulomès, vous opérez?
Déjà, la prière avant, donc c'est vraiment avant chaque entretien pour confier ce moment qui va se passer au Seigneur. Ça, déjà, c'est la base. Et après, pendant, garder toujours l'idée que le Seigneur est là et qu'à des moments, ça peut bloquer. La personne peut bloquer ou moi. Et là, je demande au Seigneur, allez, vas-y, hein, parce que là, c'est à toi à jouer. Moi, je peux pas aller plus loin. Et très souvent, on sent la personne qui est dans l'hésitation. On la sent un peu bloquée. Et d'un coup, ça débloque. D'un coup, oh, tac, il vient. C'est très souvent que ça arrive. Mais à un moment donné, il faut vraiment confier au Seigneur. Avant et pendant aussi. Ne jamais oublier qu'il est là. Qu'il est là et qu'il est agissant. Même si ça ne se voit pas.
Et après? Après un entretien, un échange.
Après déjà, remercier, vraiment, ouais. Gratitude pour ce qui s'est passé, et confier cette personne dans la prière que les graines qui ont été semées puissent grandir dans le temps. Parce que ce qui est très difficile pour l'écoutant, c'est de se dire, ça a raté, ça n'a pas marché, je n'ai pas obtenu les résultats que je voulais, la personne n'est pas repartie avec le sourire, elle ne s'est pas sentie soulagée. Et du coup, on doute de soi. En fait, non, on doute de Dieu. On doute qu'il soit capable de faire, avec ce qui s'est passé, de faire quelque chose derrière.
Oui. Et ça me fait penser à ce mot écoute Israël, hein, Chemin Israël, oui. Qui sont au début du livre du Deutéronome quand oui. Les 10 commandements sont donnés à Moïse. Cette écoute, elle consiste en quoi en fait, ce chemin Israël?
Quand on dit écoute à quelqu'un, oui. Ça mobilise son attention. Écoute-moi. Et donc là, Dieu parle et il dit « Écoutez-moi ». Ça veut dire « Mobilisez-vous sur moi, tournez vos regards vers moi, sortez un peu de votre labyrinthe intérieur. Écoutez-moi, j'ai des choses à vous dire. »
Écoutez-moi, j'ai des choses à vous dire. Alors, la troisième forme d'écoute, après l'écoute de soi et l'écoute de Dieu, c'est écouter les autres. Ça ne va pas forcément de soi, vous l'avez dit, il faut accepter d'être à sa juste place. On peut être distrait. Ou au contraire, carrément, se surinvestir. Quelle est la juste posture pour être présent à l'autre?
Pour être vraiment présent à l'autre, je crois qu'il faut être ni trop intrusif, ni trop distant. Il faut trouver une bonne distance. C'est pour ça, j'y reviens, on a un questionnement qui s'appelle les pointeurs de précision, qui est extrêmement précis. C'est un outil, c'est comme un scalpel. Voilà ça. Et c'est des toutes petites questions, toutes simples. Et la personne qui reçoit ces questions, il répond naturellement, ça paraît tout simple, mais ça lui permet d'y voir plus clair. C'est-à-dire, par exemple, on va interroger un mot qui, pour vous, veut dire quelque chose, mais pas forcément pour moi. Exemple, l'autre jour, il y a un monsieur qui me dit, parlait de motivation, et qui me parlait, qui parlait en groupe de motivation, faisait un petit exercice, et la personne qui écoutait lui dit « Ah, j'entends votre enthousiasme ». Et le monsieur a reculé, on a senti, il était choqué, il n'avait pas été compris. Non, lui, il a répondu, moi je serai enthousiaste si on m'offre un mois de vacances à Bali. Vous voyez, enthousiasme c'est ça, motivation c'est autre chose. Et donc, d'accord, même un mot qui, pour moi, va avoir une signification, n'a pas la même signification chez l'autre. Donc, c'est tellement pointu, la communication, l'écoute, la compréhension, qu'on peut sur un mot achoper. C'est pour ça que l'écoute, c'est quelque chose de très, très pointu. Et je ne peux pas interpréter que ce monsieur est enthousiaste alors qu'il est juste motivé. Et pour lui, ce n'est pas du tout la même chose. Pour moi, ça pourrait. Et enfin, pour la personne qui écoutait, en tous les cas, ça l'était.
Donc, un des pointeurs de précision, ce serait de faire préciser justement
absolument
à l'autre un mot.
Qu'est-ce que c'est pour vous la motivation ? Et d'accord, la personne va expliquer ce que c'est. Elle va mieux se comprendre en mettant des mots sur quelque chose qui pour elle est évident. Quand on parle, notre discours est évident. On a l'impression qu'on emploie les bons mots, les bonnes formules et que tout le monde va nous comprendre. Mais non, il y a des interprétations constantes dans la communication. Constantes. C'est tout simple, hein, motivation, enthousiasme. Voilà, c'est une erreur qui paraît vraiment anodine. Et en même temps, dans une écoute, ce n'est pas du tout la même chose.
Oui, ce n'est pas anodin. Est-ce qu'il y a d'autres pointeurs de précision ?
Oui, il y en a d'autres, oui. Oui, oui.
Par exemple,
quand une personne va nous parler d'un obstacle, nous dire « je devrais, il faudrait », vous voyez, elle montre un objectif. Et donc cet objectif, elle n'arrive pas à l'atteindre, sinon elle n'en parlerait pas. Et dans cet objectif, il y a un obstacle. Et quand elle parle de devoir, de falloir, cette projection qu'elle a sur un état qu'elle voudrait atteindre et elle n'y arrive pas, on pose la question, qu'est-ce qui t'en empêche ?
Ah oui.
Et là, ça paraît tout simple, mais la personne, elle se cogne à ce mur, cet obstacle, et là, elle va parler de ce qui la bloque. Au lieu de parler de son problème aujourd'hui ou de la projection « demain, j'aimerais ceci, cela », dire « qu'est-ce qui m'en empêche ?» Et là, on touche à des zones de souffrance. Parce que la personne va être obligée de traverser une souffrance, va être obligée de traverser quelque chose qu'elle n'a pas envie de traverser. Et en même temps, elle voudrait aller de l'autre côté. Mais en même temps, il y a cet obstacle au milieu. Et donc, on travaille, par exemple, sur ce passage entre le vieil homme et le nouvel homme, quelque part. Et au milieu, il y a la croix, il y a la souffrance, il y a là où je ne veux pas aller. Et donc, nous, écoutant, on est censé accompagner la personne à parler de cet obstacle et un petit peu apprivoiser la peur ou la douleur, toutes les craintes qui peuvent être liées. La croix, on est tous obligés d'y passer quand on veut aller d'un état actuel à un état qu'on voudrait être meilleur pour nous. Et des fois, l'état que la personne espère, en se cognant quelque part à l'obstacle, elle se rend compte qu'en fait, de l'autre côté, elle ne veut pas y aller.
Ah oui, tout simplement.
Tout simplement. Ouais. Des fois, elle se rend compte que c'était un rêve, c'était quelque chose qu'aujourd'hui, en tous les cas, où le Seigneur ne l'appelle pas là, où elle n'est pas encore capable de traverser cette souffrance, cette croix. Et pourquoi pas ? C'est respectable. Il n'y a pas de forcing.
Mm-hmm. Est-ce que cet obstacle, il doit être nécessairement levé par la personne elle-même ? Est-ce qu'il dépend de la personne elle-même ?
Ah oui, tout à fait.
Il
dépend de la personne.
Donc on ne peut pas se cacher derrière « c'est pas moi, c'est l'autre ».
Ah non, pas dans un accompagnement d'écoute où la personne, si elle parle de l'autre, nous, nos questionnements, nos pointeurs de précision vont l'amener à revenir à elle. Quelqu'un, par exemple, qui va se plaindre, mon mari, ceci, cela, ok, et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ? On ne peut pas laisser les personnes parler des autres. Le problème, ce n'est pas l'autre. Ça ne peut jamais être l'autre. Donc déjà, il faut sortir ça, c'est une ornière.
C'est nous-mêmes qu'on doit changer.
Ah ben bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais il y a l'ornière, c'est une ornière, c'est un piège, hein, la personne. C'est l'autre qui m'a fait du mal. Mais oui, c'est l'autre qui vous a fait du mal, je ne vais pas vous dire le contraire. Bien sûr, la personne, elle est victime. C'est pas pareil d'être victime et de se victimiser. C'est pas tout à fait la même chose, hein, quand même. Donc, je suis victime d'une situation. Ok. Et maintenant, en tant qu'acteur, pas en tant que victime. Qu'est-ce qu'on fait ?
Ouais.
Voilà,
c'est
ça. Donc, on pousse la personne vers ça, la responsabilisation. Alors, elles ont un petit peu du mal parce que l'autre, il est méchant et moi, je suis gentille. Alors, quand même, c'est quand même pas ma faute. Oui, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Et donc, la personne, il faut qu'elle trouve ses solutions. Et des fois, il y a des personnes qui décident que, pour l'instant, elles ne sont pas prêtes à sortir de ce lieu gênant, de ce lieu douloureux où elles se trouvent en ce moment. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi des bénéfices secondaires. Ça veut dire, je ne pars pas de cette situation parce que finalement, ok, je m'en plains, mais quand même, j'y trouve un petit peu mon compte, pour l'instant.
Ça peut être rassurant aussi.
Alors, ça peut être rassurant, mais en même temps, de mettre ça à jour. Ça permet à la personne de se dire « Ok, je mets sur la balance d'un côté la souffrance que je vis dans cette situation et en même temps mes bénéfices secondaires. » Parce que là, on va les éclairer. Parce que les bénéfices secondaires, souvent, ils sont sous la table. Hein. On ne les met pas trop à jour.
Parce qu'ils font honte ?
Oui. Mais oui, parce que je ne peux pas en même temps me plaindre et en même temps me dire que finalement, il y a bien quelque chose qui m'intéresse dans cette situation. Je ne peux pas.
Oui, ça peut être un aspect financier, par exemple.
Ça peut être un aspect financier, ouais. Mais il y a des solutions aussi. Par exemple, quelqu'un qui voudrait quitter son travail parce qu'il est harcelé, qu'il souffre, voilà. Eh bien, j'ai un intérêt secondaire, un bénéfice secondaire, c'est que je vais gagner ma paye, ok. Est-ce que je ne peux pas trouver d'autres solutions plutôt que de continuer à souffrir.
Oui. Est-ce qu'il y a d'autres pointeurs de précision?
Oui, il y a par exemple les généralisations. Les personnes qui généralisent une situation. Par exemple, tous les patrons sont des exploiteurs. Et on va poser juste des questions pour être sûr que la personne est bien sûre que c'est tous. Tous les hommes sont des profiteurs. Tous, vraiment tous. Oui, on pourrait dire comme ça spontanément, mais enfin, c'est pas vrai, vous avez quand même bien connu dans votre vie des hommes gentils. Non, c'est juste tous. Est-ce que vous êtes sûr que vraiment tous les hommes sont comme ça, ou tous les patrons? Et là, la personne, elle tombe un peu de son piédestal,
De sa certitude.
Mais sa certitude, parce que oui, peut-être elle en a rencontré beaucoup, mais il ne faut pas non plus exagérer. Donc, par exemple, ça c'est un autre pointeur. Après, il y a des croyances. Ça, c'est très, très difficile. Parce que la personne, elle va vous sortir une croyance, quelque chose qui, pour elle, est sûr. Mais en fait, d'où elle le sort, ça? D'où elle sort ces certitudes sur les choses, sur elle? Je n'y arriverai jamais. Ah bon? Alors, la question dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qui vous le fait dire?
Ah.
Et là, souvent, ça bloque. La personne tombe dans un silence parce qu'elle ne sait pas ce qui lui fait dire. Elle le dit parce qu'elle l'a appris comme ça, quelque part. C'est un peu écrit dans le grand livre de sa tête. Là. C'est écrit comme ça. Voilà.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a pu lui dire quand elle
bien
était
sûr,
enfant, voilà, t'es bonne
sûr,
à rien.
Bien sûr. Il y a toujours une inscription dans le passé. Et nos croyances viennent de très, très loin en amont, évidemment. Mais il y a beaucoup de croyances qui n'ont pas été reconsidérées, qui n'ont pas été remises à plat en disant, est-ce que cette croyance, elle est vraiment vraie? Est-ce que je vis bien avec? Parce qu'il y a des croyances qui nous font bien vivre. Finalement, si je pense que fondamentalement, l'homme est bon au fond de lui, c'est bien comme croyance. Après, il ne faut pas tomber dans le monde des oui-oui. Aussi, ça peut être un aspect négatif d'une croyance qui pourrait paraître positive. Donc, il faut revoir nos croyances, parce qu'elles nous guident. C'est vraiment nos guides, nos croyances. C'est vraiment le couloir dans lequel on est souvent un peu coincé. Donc, c'est important de demander à la personne qu'est-ce qui lui fait dire ça. Et souvent, une croyance est rattachée à une autre. Donc, elle croit ça parce qu'elle avait cru avant ça. Et donc, c'est bien de faire un peu ce désempilage de croyances.
Détricotage.
Oui, on détricote. Et souvent, la personne derrière, elle va nous dire, oui, mais comme vous disiez très bien, oui, parce que ma mère m'a toujours dit, parce qu'à l'école, on m'a dit, parce que, voilà. Et donc, j'ai construit ma croyance là-dessus. Et il faut savoir quand même qu'une croyance, c'est quelque chose qu'on va, toute notre vie, se débrouiller pour faire vivre et valider. C'est-à-dire que si on m'a dit que je suis bonne à rien, il y a de fortes chances que je me débrouille dans la vie pour voir tous les moments où j'ai été bonne à rien et un petit peu mettre de côté les moments où j'ai été valable parce que je dois faire vivre ma croyance. Parce que c'est grave, sinon ça voudrait dire que je me suis trompée sur moi-même, sur la vie, sur le monde, sur les autres. C'est très inquiétant. Donc je me raccroche à mes croyances. Mais quand on déconstruit les croyances, la personne se libère.
Eh bien oui, bien sûr.
On devient beaucoup plus libre.
C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes.
Tout à fait.
C'est ça.
Tout à fait.
D'accord. Juste avant de marquer une pause musicale, est-ce qu'il y a, Claude Colomès, un dernier pointeur de précision que vous voudriez aborder qui empêche l'autre justement?
Oui, par exemple, les causes à effet. C'est-à-dire, je suis comme ça parce que l'autre est comme ça. J'agis de cette manière en réaction à... voilà. Et donc là, on interroge à savoir si ce serait vraiment vrai que l'origine du comportement se situerait là. Et est-ce que des fois, on n'aurait pas ce comportement alors qu'il n'y a pas cette origine? Et est-ce que des fois, il pourrait y avoir cette origine, mais qu'il n'y a pas le comportement qui va aller avec? Ça, on détricote aussi quelque chose qui est ancré comme ça entre une cause et un effet. Et il faut le voir tout ça, il faut dans l'écoute. C'est très pointu. Parce que la personne, elle vous dit ça, mais ça paraît tellement naturel pour elle.
Et quel signe peut alerter justement pour voir ça?
La vigilance. C'est pour ça qu'on donne une formation pour que les personnes deviennent vigilantes à entendre dans le discours de l'autre les généralisations, les croyances, les causes à effet, les mots pas clairs. Parce que si on ne fait pas ça, on reçoit le discours de l'autre cash et puis on ne peut rien en faire.
Ouais.
Il faut détricoter tout ça, les pointeurs de précision servent à ça. C'est un peu plus compliqué que ça. En même temps, j'essaie en quelques minutes de vous résumer quelque chose qui va durer 2 jours, puisque c'est une formation sur 2 journées. Donc, ça va beaucoup plus loin et on rentre vraiment à l'intérieur. Je vous donne une petite ébauche, une petite
Voilà, mais ça peut déjà donner à ceux qui nous écoutent et qui ne pourront pas suivre cette formation d'avoir quelques éléments pour écouter. On marque une pause, Claude Colomès. Je vous propose d'écouter une chanson qui s'appelle « Écoute » d'Étienne Copé.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Quelle est la posture de l'écoutant chrétien? C'est ce que nous découvrons aujourd'hui avec Claude Colomès, psychothérapeute et accompagnatrice du mouvement Mère de Miséricorde et de l'accueil, Louis et Zélie Martin, et aussi formatrice, je ne l'ai pas dit. Nous avons distingué en première partie d'émission comment être à l'écoute de soi, de Dieu et de l'autre. Et alors, il y a évidemment beaucoup de pièges à éviter. Le premier, c'est de se laisser happer par le discours de l'interlocuteur.
Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel, puisque dans la vraie vie, je veux dire, quand on n'est pas en position d'écoutant vraiment, eh bien, on rentre dans le discours de l'autre, on rentre dans l'histoire de l'autre, on peut être passionné par ce qu'il dit, on peut faire des liens, et c'est ce qui arrive souvent avec sa propre histoire. Ah mais oui, je comprends, moi aussi j'aurais réagi comme ça, bien sûr, évidemment, oh là là, la pauvre, voilà. C'est une réaction tout à fait normale.
Ça peut renvoyer à sa propre histoire.
Ça renvoie forcément à notre propre histoire. Si on n'a pas pris cette distance dont on parlait tout à l'heure, évidemment, ça renvoie à ma propre histoire. Alors, soit je comprends parce que j'ai vécu la même chose et vraiment, cette personne, je la comprends à 100%. Alors, je peux la comprendre, j'ai envie de dire intellectuellement. Ah oui, je comprends comment elle fonctionne. Je peux la comprendre émotionnellement. Je suis collée à elle avec mes propres émotions parce que mes émotions, ses émotions sont vraiment en osmose. C'est super. On se comprend tellement bien. Oui, c'est bien, hein, mais ça ne suffit pas. Pour l'écoute, ça ne suffit pas. Se laisser embarquer dans le discours de l'autre, quelque part, c'est l'autre qui passe devant et je le suis. Je suis désolée, il faut vraiment dire aux écoutants, on ne passe pas devant,
on
ne se laisse pas embarquer, on
ne
passe pas derrière, on est à côté. On est à côté, moi d'un côté, le Seigneur de l'autre. Et on chemine ensemble tous les trois. Parce que si je passe devant, je sais mieux que l'autre. Si je reste derrière, je laisse l'autre m'embarquer dans son discours et je le suis, mais je ne suis d'aucune utilité.
Et donc ça veut dire qu'il faut l'interrompre ?
Oui, il faut l'interrompre, oui. C'est-à-dire pour interrompre quelqu'un qui raconte son histoire, dans un premier temps, il faut entendre l'histoire. Voilà, il faut que la personne puisse se déverser. On n'est pas des policiers qui interrogeons les gens. Donc, il faut laisser la personne se déverser dans sa problématique, dans sa difficulté, dans sa souffrance. Et là, vraiment, on prie, Seigneur, accueille sa souffrance. On ne peut couvrir son cœur dans ces cas-là. Mais au bout d'un moment, la personne, elle va tourner en boucle. Il faut sentir le moment où ça ne sert plus à rien qu'elle se déverse. Souvent, quand la personne vient demander une écoute, elle a déjà déversé déjà ces problématiques. Elle a déjà exprimé tout ça à ses amis, à sa famille, à la coiffeuse, à l'esthéticienne, à la boulangère. On sait que les gens ont besoin de parler. Il n'y a pas assez de lieux d'écoute. Les gens n'ont plus le temps de s'écouter. Donc, quand quelqu'un vient demander une écoute, souvent, elle a déjà raconté son histoire. Donc, il faut entendre l'histoire. Et à un moment donné, il faut pouvoir couper en disant « Ok ». Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et c'est là où les pointeurs arrivent. Je voulais vous demander, justement, quand vous dites ça, qu'est-ce qui vous le fait dire? Et là, la personne, elle s'arrête et d'un coup, peut-être pour la première fois, on lui a posé une vraie question sur sa problématique. Je dis peut-être pour la première fois, c'est peut-être un peu présomptueux, mais l'idée, c'est qu'une vraie écoute, c'est ça, une écoute vraiment attentive, c'est ça.
Oui.
C'est d'aller de dire, ok, expliquez-moi ça. D'où vous sortez ça? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Expliquez-moi, quand vous me dites ça, ça veut dire quoi pour vous? Et là, la personne, elle s'arrête. Et là, au lieu de déverser de l'intérieur vers l'extérieur, nous, on la fait passer de l'extérieur vers l'intérieur.
Et puis, elle va réfléchir, en
elle
fait.
Va réfléchir.
Il n'y a pas qu'un récit, ouais, il y a une réflexion.
Bien sûr. Et c'est là où, souvent, elle va rester un peu dans le silence parce qu'elle est un peu interloquée, parce qu'on ne l'avait pas ramenée à ça. Et il faut laisser ce silence. Il faudrait pas que l'écoutant soit gêné par ce silence, parce que la personne va être en difficulté à l'intérieur d'elle. Elle a une question qui va la déstabiliser,
Donc il faut laisser silence pour élaborer, avoir le temps d'élaborer la réflexion.
Oui, il faut qu'elle fasse son chemin, ou intellectuel ou émotionnel à l'intérieur d'elle. Il faut qu'elle ait le temps de faire son chemin, parce qu'on lui a posé une question et elle veut y répondre, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas, parce que cette question, on ne l'a peut-être jamais posée. C'est un lieu où elle n'a peut-être jamais été explorée. Et donc, c'est important de la laisser explorer elle-même. Et très souvent, quand la personne s'arrête, parce qu'elle a besoin de cheminer, il en sort quelque chose. Elle a ouvert une porte. Systématiquement, mais il faut lui laisser le temps. Et ça peut être un piège aussi, quand on sent l'autre en difficulté, de vouloir le repêcher.
Ah oui, répondre à sa place ou lui donner des éléments de réflexion.
Voilà, ou faire une proposition. Alors, c'est peut-être ça, non? Ou ça, je ne sais pas. Ou poser une autre question.
Et
parce
en fait, ça enferme déjà.
Et oui. Et du coup, on ferme les portes. On l'empêche de les ouvrir, en tous les cas. Et ça, c'est un piège.
Alors, Claude Colomès, vous formez des personnes qui écoutaient des femmes qui sont confrontées à une grossesse non désirée. Là aussi, dans l'écoute, quel est le piège à éviter pour accueillir, finalement, ces personnes telles qu'elles sont?
Oui. Alors, on a des femmes qui s'adressent à nous parce qu'elles ont une grossesse non désirée, elles ont une hésitation. Est-ce que je vais vers l'IVG ou est-ce que je garde le bébé? Et donc, nous, forcément, en tant que chrétiens, on a nos croyances. Et forcément, on est pour la vie. On voudrait que ces femmes gardent le bébé, évidemment. Seulement, on ne peut pas faire passer ce message. Et alors ça, c'est très douloureux, très, très douloureux, parce que comment laisser une femme partir vers l'IVG.
Et faire un choix de mort.
Et faire un choix de mort, alors que nous, on tend à tout prix vers la vie. Mais dans l'accompagnement, on ne peut pas se permettre de donner notre avis, de faire passer nos croyances, encore moins de culpabiliser la personne. Nous, ça va être l'aide qu'on va essayer de leur apporter, c'est de mettre à plat toute sa problématique, ses peurs, ses inquiétudes, mais au fond, peut-être un désir. C'est de mettre tout ça à plat et qu'elle puisse, elle, faire son choix. Lui ouvrir des portes. Parce que souvent, la personne, elle est tellement stressée, tellement inquiète. Tout est verrouillé autour d'elle, elle ne voit pas de solution.
Et puis, il y a beaucoup de pression, souvent.
Alors, souvent, il y a de la pression financière, des fois, familiale, parce qu'elle est toute seule, le papa est parti, voilà. Ou la maman dit, on ne va pas s'occuper de ça, ou le papa dit, j'en veux pas. Enfin, il y a plein de choses. Donc, tout ça, quand on le détricote, quand on le met à plat, la personne, déjà, va sentir qu'il y a peut-être plus d'issue qu'elle le croit. Après aussi, on peut leur proposer des vraies aides financières, des aides d'accueil. Il y a tout un réseau autour de ces personnes, de ces femmes, tout un réseau d'aides qu'elles ne connaissent pas. Donc ça, c'est quand même notre rôle de leur dire qu'elles peuvent, si elles gardent le bébé, avoir beaucoup d'aides autour d'elles, des réseaux d'accompagnement concrets, vraiment. Mais nous ne pouvons pas laisser passer le message, un message culpabilisant, comme quoi c'est pas bien ce qu'elle fait. Par contre, il faut que la personne prenne la conscience qu'elle va détruire une vie, qu'elle s'en responsabilise. C'est très pointu, la différence entre responsabilité
parce que c'est
et culpabilité.
Oui, parce de le dire avec les mots justes.
Il faut le dire avec les mots justes. Il faut que la personne prenne une vraie décision. Oui, je vais vraiment éliminer une vie. Moi, j'ai accompagné une dame, là, il n'y a pas longtemps, en psychothérapie, qui a pris cette décision. Le bébé était peut-être viable, mais allait peut-être mourir à la naissance. Enfin, c'est très, très compliqué. Elle a choisi et son mari a dit, bon, mais voilà, c'est rien, c'est genre un amas de cellules, quoi. Et on a fait, ça a duré 5 mois, enfin 4 mois avant l'avortement, enfin avant l'IVG.
L'IMG.
Oui, et pendant l'IMG. Et elle a vraiment pris conscience, elle a dit, oui, j'ai décidé de tuer cette vie. Et là, elle était responsable. Et finalement, maintenant, ben, elle est dans quelque chose de sain, j'ai envie de dire, parce qu'elle a pris la responsabilité. Voilà, c'était sa décision.
C'est sa décision.
Voilà. Par contre, son mari va très mal, parce que pour lui, il n'a rien voulu savoir.
Il a été dans le déni.
Complètement. Mmh. Aujourd'hui, elle lui a donné un nom à ce bébé. Voilà, et elle n'est pas chrétienne, hein, cette personne.
Oui, donc il y a un travail de deuil qui se
fait. Il y a un vrai travail de deuil qui se fait. Elle lui a donné un nom. Voilà, elle est de nouveau enceinte maintenant et elle sait que ce bébé ne remplacera pas celui d'avant. Voilà, elle a fait un vrai cheminement, mais on ne peut pas induire les choses. Parce qu'une personne a déjà, on peut faire le contraire. Quand on pousse quelqu'un dans un sens, il y a une forme de résistance en face qui fait qu'elle va faire le contraire juste pour résister. Mmh. Parce que les gens n'aiment pas être poussés malgré eux.
Et c'est justement un piège de l'écoute, c'est d'empêcher l'interlocuteur d'avancer.
Tout à fait, tout à fait. Et il ne peut pas avancer, pourquoi ? Parce que moi, je n'aurais pas été sur ce chemin. Donc je ne peux pas amener quelqu'un, enfin aider quelqu'un à aller sur un chemin que je réprouve. Mais ce que je réprouve ou ce que j'accepte, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu grossier, mais on s'en fiche. On s'en fiche de ce que j'en pense. C'est pas l'objectif. Mon objectif n'est pas de faire passer mon message. Ça, c'est très difficile.
Et ni de raconter, comme vous disiez, ma vie, ou de dire ce qui m'est aussi arrivé, ou de dire, tiens, c'est arrivé à la voisine, finalement, ça n'apporte rien.
Ça n'apporte rien, au contraire, même ça met la personne en résistance.
Ah oui.
Oui, parce que de la comparer à quelqu'un en disant, j'ai connu quelqu'un à qui c'est arrivé... ouais, mais ce quelqu'un, c'est pas moi. Donc, elle m'écoute pas. Elle me compare à quelqu'un. Elle nous met
c'est
dans le même sac. Voilà,
c'est
plus individuel. Individuel, c'est pas comme la voisine. Et si moi, je disais, vraiment, ce serait une grosse erreur, si je disais, mais moi, j'ai vécu la même chose, je vous comprends. Ouais, mais toi, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est ça qu'elle pense au fond d'elle, la personne.
Ouais, donc ça bloque
bloque.
Après, elle ne se livre pas.
Elle ne peut pas se livrer, puisque elle et moi, c'est pareil, ou moi et la voisine, c'est pareil. Donc, je n'existe pas vraiment. Mm. Une personne, elle est unique, avec son mystère, comme vous disiez tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi une autre peur dans l'écoute, c'est parfois d'être intrusif. Parce que justement, si on pose des questions, quelle est la limite ?
Oui. Je l'entends souvent en formation. J'ai pas mal de personnes qui font déjà de l'écoute avant de venir en formation et qui me disent « Ben moi, j'écoute, je dis rien. » « Ben non, je dis rien, je me permettrai pas de dire quelque chose. »« Ah bon, mais alors comment ça se passe ?»« Ben la personne, elle parle. »« Ok, et depuis combien de temps ?»« Ben depuis un an. »« Ok, ouais, 2 fois par mois, 3 fois par mois, je la vois, elle me parle. »« Combien de temps ?»« 2 heures, hein, ok. »« Et qu'est-ce qui a avancé ?»« Ben rien. »« Mais rien. » Le fait que la personne parle, ça n'a jamais fait avancer les choses.
Oui, ça peut soulager à court terme parce que voilà, on a quelqu'un à qui se confier.
C'est ça. En fait, comme vous dites, c'est à court terme. C'est-à-dire qu'on en a besoin un moment. Et puis, en continuant à répéter ses problèmes, moi je dis c'est un peu comme quand on gratte la croûte, vous voyez. Voilà, ça saigne. Et après, on laisse refaire la croûte, puis on regratte, ça saigne. À un moment donné, de parler de ces problèmes, j'ai remarqué que ça les amplifie et que ça prend beaucoup plus de place qu'au départ, parce que j'en ai parlé. Je vis à travers mon problème. Je l'expose, je l'exprime, je le répète, j'y pense. Ben, du coup, ça amplifie, ça ne règle pas.
Donc, est-ce que ça veut dire que si, par exemple, votre ami vient vous voir et vous confie son histoire, est-ce qu'il y a un moment, il faut avoir le courage peut-être de lui dire « Tu m'as déjà raconté,
oui.
On n'avance pas
oui.
et va voir peut-être une personne
absolument,
qui peut t'aider en posant les bonnes questions. » Et
Tout à fait. Parce que les personnes qui ne sont pas des professionnels et qui ne savent pas faire, ils écoutent avec leur cœur, comme on disait tout à l'heure, avec pleine empathie. Et moi, j'ai plein de personnes autour de moi qui me disent « J'en ai marre, il y a une telle, elle m'appelle, ça fait des mois, elle me répète toujours le même problème. Moi, je lui donne des bons conseils, mais elle ne les écoute pas. Alors, elle revient avec le même problème. » En même temps, les conseils, ça ne sert à rien, on le sait, on l'a compris. Mais en même temps, il faut pouvoir dire à la personne à quoi ça te sert de me dire tout ça. Est-ce que ça te fait avancer ? Est-ce que tu as l'impression que ça te fait du bien ? Oui, ça me fait du bien, mais ça ne te fait pas du bien puisque ça continue. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amélioration.
Dernière question, Claude Colomès. C'est vrai que l'écoutant peut être submergé par ses propres émotions en écoutant toute l'histoire de l'autre, en essayant de l'aider avec les outils, évidemment, que vous donnez dans vos formations. Comment se, se détacher finalement de tout, de ce trop-plein d'émotions et de... Oui, c'est ça, d'émotions.
Mmh. Alors justement, avec les pointeurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un outil en main. On ne fait pas que avec son cœur et avec son émotion. On a des outils qui font qu'on se désinvestit émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de l'empathie ou de la compassion pour la personne, bien sûr. Mais en tant qu'écoutant, avec mes outils, je me recule. J'y vais pas avec tout moi, j'y vais avec des outils. Et je sais que ça, c'est efficace.
Mmh. C'est efficace. Merci beaucoup. Alors, vous allez donner évidemment beaucoup plus de détails hein, dans votre formation à l'écoute que vous donnez les 16 et 17 novembre au Calvel à Balma. Et puis, il y aura des échanges, des témoignages, des questions.
Bien sûr.
Puis, pour les personnes qui ne pourraient pas s'inscrire parce qu'il n'y a plus de place ou parce qu'elles ne sont pas disponibles, il y aura une autre formation en janvier. L'inscription est par téléphone au 06 67 30 18 35, 06 67 30 18 35. Merci beaucoup, Claude Colomès, de nous avoir parlé de cette écoute et de la juste posture de l'écoutant chrétien.
Mais je vous en prie, j'ai été ravie d'être avec vous ce matin.
Merci.